Vous écoutez France Inter, 15h03.
Radio France, partenaire de Marseille-Provence 2013, accompagne l'inauguration du MUCEM le 7 juin prochain à Marseille. Le MUCEM, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Expositions, cinéma, spectacles, rencontres et débats. Toute la Méditerranée se raconte au MUCEM. À cette occasion, Radio France met en place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre l'événement en direct de Marseille. Retrouvez les émissions de France Inter, France Culture et France Bleu Provence en direct du MUCEM du 4 au 8 juin. Tout le programme sur radiofrance.fr.
France Inter, la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est maintenant avec Daniel Mermet sur Inter.
On organise durant des décennies le chômage de masse. Il suffit alors de faire venir une usine, juste une usine, dans une région lapidée par la misère, et les gens qui y sont engagés ont tellement peur de perdre leur emploi que l'on peut leur demander n'importe quoi. Et si un journaliste d'investigation dénonce la fatigue ultime des corps et la soumission totale du personnel, il se fait houspiller par ceux-mêmes qui sont les esclaves modernes en ce troisième millénaire.
Ouais, salut, c'est Ivar de Nîmes. Là, écoutez, ça fait deux jours que j'écoute l'émission, je suis atterré. Je suis carrément atterré parce que pourtant c'est une émission que j'aime beaucoup, que j'écoute très souvent et qui me plaît vraiment. Mais là, je suis atterré. C'est quoi le problème, en fait, là ? Vous êtes en train de montrer du doigt Toyota comme si c'était des monstres. Et puis après, il n'y a pas une seule critique vraiment contre Toyota. Vous êtes en train de critiquer un système. Alors, on est bien d'accord. Ce système, il est ce qu'il est, mais je vois pas pourquoi plus Toyota que les autres. La différence, c'est que Toyota le pratique exactement comme Peugeot, comme Renault, mais eux, ils réussissent. Et puis là, vous mettez ça dans la merde. Faut savoir ce que vous voulez, les mecs. Qu'il y ait des chantiers ouvriers qui sont baisés, on le sait, c'est pas d'hier. Mais la différence, c'est que là, ça marche et qu'il y a des emplois. Qu'est-ce que vous reprochez particulièrement à Toyota ? C'est invraisemblable. Invraisemblable.
Et oui, Daniel, quand il n'y aura plus Toyota à Valenciennes, il n'y aura plus rien. Donc on est prêt à accepter n'importe quoi. Et ça s'appelle le chantage à l'emploi. Et finalement, on peut dire que c'est un peu ce qu'ils ont mis en place à l'échelle mondiale, quoi. Si vous acceptez pas nos conditions, on va partir, on va délocaliser, on va compresser, voilà. Et à côté de chez moi, donc j'habite en Berre, et ça peut se passer comme ça aussi avec des entreprises, on va dire, qui n'ont pas vocation à délocaliser, puisque c'est l'industrie du champignon. Ici, on voit qu'il y a quand même plusieurs personnes de la région qui travaillent dans ces entreprises, et puis qui travaillent pendant la saison jusqu'à 16-17 heures par jour, sans dimanche, sans samedi, c'est-à-dire toute la semaine, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, aussi longtemps que dure la saison des champignons. Et ça, on l'accepte parce qu'ils ont saboté toute l'industrie ici, ils ont saboté toutes les entreprises. On l'accepte parce qu'il n'y a pas le choix, quoi.
Oui, bonjour Daniel. Moi, je te propose de faire une émission sur le coût réel du travail par rapport au coût de pièces, au coût de production, ce que ça représente réellement, parce que je pense que tout le monde se gourre. Ça fait des années qu'on nous parle de compétitivité, de flexibilité, etc. Mais je pense qu'on serait bien surpris de savoir ce que représente réellement le coût du travail sur le produit. Voilà, merci.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Depuis Ford, on le sait, l'industrie automobile a toujours été le support d'expérimentation de nouvelles conditions de travail et de type de production. Ton émission sur Toyota en est vraiment une excellente illustration. D'ailleurs, dans un de ses ouvrages que les auditeurs de là-bas connaissent bien, André Gors avait rappelé que le constructeur automobile Volvo avait constaté que la production à la chaîne était équivalente en qualité et productivité à la fabrication en équipe, qui laisse aux ouvriers davantage d'autonomie dans leur activité de production. D'ailleurs, il nous expliquait que ce qui avait conduit les dirigeants de Volvo à favoriser la chaîne, c'était le constat que celle-ci leur apportait des ouvriers plus soumis et dociles et moins revendicateurs que les ouvriers plus autonomes. La mise sous chaîne, la destruction des équipes et les augmentations de cadence ont de fait pour principal objectif de détruire le travail qui devient totalement répétitif et non social, et ainsi de détruire également l'individu citoyen par ce travail. Avec la chaîne et la nécessité de produire que nous impose le système productiviste, les voitures, comme les individus, ne sont plus réparables, ils deviennent jetables et remplaçables. Ainsi, le combat contre les gains de productivité n'est pas seulement un combat pour de meilleures conditions de travail, c'est aussi un combat pour la démocratie.
Pour l'ex-président de la République, le travail était une valeur. La valeur travail, répétait-il à tout propos. Mais que nous dit la philosophie sur les valeurs et sur le travail? Elle distingue bien ce qui a une valeur et ce qui est une valeur. La justice, la liberté, la vérité sont des valeurs morales. Elles n'ont pas de prix, elles ne sont pas à vendre et ne sauraient être échangées contre autre chose. Ces valeurs répondent à un désir très fort et non à un besoin. Le travail, lui, n'est pas une valeur en soi, c'est un moyen, il répond à un besoin. Le travail pris en lui-même ne vaut rien, c'est pourquoi on le paye et qu'on lui donne un prix. On objecte parfois que le chômeur de longue durée perd sa dignité. Mais où a-t-on vu que la dignité d'un homme dépend de son travail? Et pourquoi, si tel était le cas, ne pas plaindre aussi le milliardaire qui n'a plus besoin, le pauvre, de travailler? La dignité des uns et des autres n'est pas proportionnelle à la quantité de travail qu'ils fournissent. Si le chômage est un malheur, ce n'est pas par l'absence de travail, c'est par l'absence d'argent, par la misère, par l'isolement ou l'exclusion. Le travail devient inhumain ou déshumanisant quand ce moyen qu'il est tente à l'emporter sur la fin qu'il vise ou doit viser. C'est ce que Marx appelle l'aliénation. C'est quand le travailleur est nié dans son travail au lieu de s'y réaliser. D'après le dictionnaire philosophique de André Comte Sponville.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. On est con, mais pas au point de voyager. Vous connaissez la phrase de Samuel Beckett. Aller au bout du monde pour un bout de conversation, partir pour la ramener. Vous connaissez le personnage de l'écrivain voyageur avec ses bons mots, avec sa pipe au coin du feu. Et bien, cette silhouette-là a été écrasée par les gros sabots du tourisme de consommation, du tourisme de masse. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de savourer Sandrars ou Chatwin. On navigue sur Internet, les tropiques sont tristes et le monde n'est plus cet endroit enchanté. Or, de derrière les fagots de là-bas, si j'y suis, on a retrouvé des parfums, des rumeurs, des clairs et des obscurs, des instants d'hésitation, des pas dans la neige, une fenêtre encore allumée, quelqu'un qui siffle la nuit dans une gare et, au point du jour, un bateau. On est con, mais pas au point de voyager. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je connais mal les usages dans les hautes sphères politiques, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que dans une cour de récré, ça fait lurette que plus personne ne voudrait jouer avec Angela. Toujours le doigt en l'air, persuadé que sa réponse est la meilleure. Cafetant les mauvais élèves pour se faire bien voir de la dirlo, Madame Lagarde. Et avec ça, l'esprit d'équipe d'un ténia. Par exemple, et ce, malgré l'opinion contraire du reste de l'école, elle décrète que les billes chinoises bon marché sont les bienvenues sous le préau, et c'est tout. Ben, je vais te dire, Angela, t'es pas ma copine. C'est Christine du Limousin.
Bonjour là-bas, si j'y suis. Les collectifs anti-gaz de schiste et anti-gaz de houille de Lot et de Corrèze organisent un grand rassemblement pour montrer l'opposition des citoyens à l'arrivée des forages dans nos régions. Donc rendez-vous dimanche 9 juin à 15h à Sarlat, au jardin du Plantier. Et autre rendez-vous à Brive-la-Gaillarde, le 8 juin à 15h, place du Civoire. Soyez nombreux pour dire non et montrer notre détermination face à ces menaces de forage et de fracturation. Merci, au revoir.
Coucou les AMG. Le Café Repère de Barcelone se réunit aujourd'hui mercredi 29 mai à 20h30 au Café Glaciar. Comme d'habitude quoi. Chavez s'est éteint, mais qu'en est-il de la révolution bolivarienne? Et que peut-on tirer de cette expérience ici en Europe? C'est à ces deux questions que nous essayerons de répondre avec l'immense participation de Josep Cluellas, membre de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya. Venez donc nombreux ce soir mercredi 29 mai à 20h30 au Café Glaciar. Merci, ciao.
On est con, pas point de voyager.
On est con, mais pas au point de voyager.
On est con, mais pas au point de voyager.
Samuel Beckett.
Улан Удэ, Селенгам, Мысовая, Слюдянка, Иркутск пассажирский, Иркутск сортировочная, Ангарск, Усолье сибирское,
Чилимпопо, Заварин. Chaque tour des roues m'approche, et j'aurais peut-être tout perdu en arrivant.
Алзамай, Тайшет, Ришоты, Иланская, Ханкини.
On est con, mais pas au point de voyager.
On est con, mais pas au point de voyager. Samuel Beckett.
Казулька, Чернореченская, Ачинск, Боготол, Тяжин.
Nous ne sommes rien, soyons tout.
Тайга, Юрга, Болотная, Новосибирск.
Le langage est une cage.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, on est con, mais pas au point de voyager.
Flight number 2, arriving from New York.
On est con, mais pas au point de voyager.
Pourquoi voyagez-vous ? Voyager, pourquoi faire ? Histoire de se retrouver avec vous qui, depuis longtemps, partagez nos échappées, belles ou pas, et qui en fait votre miel ou votre fiel. On va feuilleter aujourd'hui quelques notes dans le carnet de voyage sonore de là-bas, si j'y suis. Histoire de se refiler, s'il le fallait, la rage et la pêche. Quelques photos, quelques légendes qui valaient leur pesant de kilomètres, légendes des gens chopés entre deux gares, entre deux guerres, instants de grâce ou d'hésitation qu'on voudrait ne jamais oublier. On le sait, il faut voyager léger, pas trop de plomb dans l'aile. On le sait, il y a des choses qu'on arrive à faire uniquement parce qu'on ignorait qu'elles étaient impossibles. On le sait, il est très dangereux de descendre de son vélo pour se regarder pédaler. On le sait, on n'arrive jamais pour les raisons qu'on avait de partir. Il y a mille raisons et mille des raisons de partir, mais les voyageurs ont tous quelque chose en commun. Partir pour la ramener. Partir pour la ramener, c'est la phrase invisible tatouée sur l'arbre du voyageur. C'est la devise secrète de quiconque prend la route. De Christophe Colomb à Jeannot le sexe touriste, du jésuite avec sa mission au reporter avec ses frais de mission, du réfugié sans papier au touriste terre de contraste, du passeur de cam au camé du caméscope, tous nous partons pour la ramener. Ramener quoi ? Des nouveaux mondes, des ch'touilles carabinées, des boules neigeuses de la Havane, des bons sauvages dans des cages, des diapositives de Trouville, des tombeaux du Christ ou des pacotilles de Duty Free, ramener de l'encens et de la myrrhe, des fables, surtout des sacs de fables, des mensonges et des songes. Des songes creux, de clichés attendus, de reportages comme prévu, d'émotions conformes et convenues, mais aussi, parfois, des rêveries pas ordinaires qui prennent leur temps à se développer en vous, comme une photo ou une maladie. Le voyage, c'est des choses qui existent, mais qu'on invente. Des là-bas qui n'existent que si j'y suis. On ne voyage pas si on ne rêve pas le voyage qu'on fait. Je ne parle pas du rêve qui endort, mais de celui qui réveille, en nage, à la gorge, l'hirsute, le traviole, le paracontable, le si beau qu'on arrête de vieillir. Imaginaire, non pas au sens d'image, mais au sens de rupture, d'invention, de résistance, de lignes imaginaux de première ligne. S'acharner ensuite à mettre ses rêves en chair, en mots, les mettre en forme, en son, en soi, en tous, voilà une aventure périlleuse et pour tout dire désespérée. En passant à la lumière, tout peut s'effriter, le plus souvent tout tombe en poussière. Le plus souvent, on évente au lieu d'inventer. Alors, il n'y a plus qu'à repartir pour la ramener.
Il y a des idées qui vous traversent l'esprit comme des hérissons traversent la route. Sans trop de raison.
Mars 1996, là-bas si j'y suis, Vanuatu.
Vous inventez des histoires.
On a inventé n'importe quoi ici pour vivre. Ça fait un mosaïque. Ça n'en plus finir.
Vanuatu, et puis Nouvelle-Calédonie, en mars 1996, nous étions là-bas. Nous étions à Yengen, c'est-à-dire le pays de Tchibaou. Toutes ces années ont abouti à ce que le mot Kanak ne s'écrive plus C-A-N-A-Q-U-E, mais K-A-N-A-K-Kanak. Et on se demande si la mélancolie, certaines qualités de mélancolie qu'on sent dans cet endroit de Yengen, ne vient pas de ça. Tout ça pour ça. La phrase la plus terrible pour tous les offensés, en deçà de la cause et au-delà de l'histoire, c'est ceci. Nous ne sommes rien, soyons tout. Sur l'île de Marais, nous nous sommes baladés, recueillis sur le tombeau de Yewene Yewene au bord du Pacifique, entre les hauts cocotiers. Nous avons songé à M. Ponce et son massacre d'Ouvéa. Nous avons entendu le sanglot de l'homme blanc. Nous avons nagé dans le bleu lagon avec en tête cette splendide idée des aborigènes d'Australie. Nothing is nothing.
Tout ça, c'est le pays de Tchibaou.
Oui, oui, on est fiers de nous.
Vous êtes fiers de vous?
Bah oui.
Oui. J'ai une femme de ménage mélanésienne, bon ben elle mange à table avec nous.
Ce que nous revendiquons dans les tribus, c'est nos terres qui ont été prises à nos grands-pères, comme ça. Pour un morceau de bâton, de tabac bâton, comme ça, ils prennent nos terres, quoi, et puis ils nous poussent avec leur bétail dans le fond. Le Kanak, c'est un dormeur, un requin dormeur. Alors, 120 ans après, il s'est réveillé.
Un requin dormeur,
ouais.
En politique. Le Kanak.
Et maintenant, le Kanak se réveille. Et c'est pour ça qu'on est passé à la revendication des terres. Qu'on récupère ce que nos ancêtres ont perdu.
Ça, c'est dans la brousse.
Oui.
Si je ne réponds pas de moi, qui répondra de moi?
Mais si je ne réponds pas que de moi, suis-je encore moi?
Suis-je encore moi?
Je me souviens plus.
Yémen, janvier 1997.
Le temps est le meilleur des maîtres.
La question émane du désir.
Lorsque je suis allée pour le pèlerinage,
je suis entrée dans le haram, la cour de la Kaaba. Je me suis mise à pleurer. Comme ça, ça venait de Dieu.
Yémen, étonnant bâtisseur, du minerai au construit, de l'intime à la façade, en sublimant le fonctionnel, ils ont inscrit dans leur paysage les multiples preuves des hautes eaux mythologiques où baigne l'harmonieuse Arabie. Tout est là encore, paysage et visage, ouvert encore et habité. Peuple et croyances, des côtes aux volcans se relient et s'affrontent par d'antiques systèmes d'allégeance et de solidarité. Musique populaire et savante, toujours vivante, poésie qui n'a pas perdu sa violente magie, spiritualité humaniste des philosophes arabes, tout au Yémen nous incline à respirer, écouter, méditer sur le profane et le sacré, le politique et le mystique, le montrer et le cacher, la prédestination ou la liberté. Ni pause, ni cuistrerie en parlant ainsi, mais une jubilation infinie. D'ailleurs, en vérité au Yémen, les femmes sont voilées, les hommes sont armés, l'islamisme progresse, la crise ronge le pays, l'unification n'est qu'un leurre sans parler du manque de papier toilette. N'allez pas au Yémen.
فمن أين جاءت تسحر قرفة الصرع
une chanson pour faire la cour à une femme et pour la blâmer en même temps.
يعني بيقول لها الحبيب راقب يالله.
Il lui demande d'avoir peur de Dieu, d'avoir crainte de Dieu.
ويذكرها يعني يا رب الله ليلات اللقاء تذكري ايام اللقاء.
Essaye de te souvenir des jours où on se rencontrait, des nuits où on se rencontrait.
ليلة السعد ما فيها شقاء يعني ليلة ما التقوا كان ليلة سعد يعني ليلة فرح.
La nuit où ils se sont rencontrés, c'était une nuit de joie.
والمسرات ما كانت تفارقهم.
Et la joie ne les quittait plus jamais. Voilà les paroles de cette chanson.
تعود إلى 700 سنة.
Cette chanson a été composée il y a 700 ans.
700 سنة. المغني الشاعر طبعا سناء المالك.
Et le poète s'appelle Ibn Sana al-Malik. C'était un poète de l'époque omeyyade.
On connaît l'utilité de l'utile, mais on ignore l'utilité de l'inutile. Lao Tzu.
Là-bas, si j'y suis, avec les Digan Rome de Roumanie, novembre 1997.
Le problème est
épineux. Audrum, pietruito. Nu există asfalt pentru rom.
Les chemins sont pleins de pierres, il n'y a pas d'asphalte pour les Roms.
Ai, Romale, cotar tu menaven. Ai, chavale,
cotar. Comment tu dis quand tu vas à Paris? Tu dis bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Très bien. Donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour manger les frais.
On va recommencer parce que ta phrase, elle est bien, mais la fin, c'est pas bon. Donnez-moi quelque chose pour manger.
Je n'ai pas du pain à la maison et c'est pour ça que je viens travailler. C'est ici que je mange. C'est l'aéroport, c'est le repas, les repas de l'aéroport, des ambassades. Et c'est là que nous mangeons.
C'est vraiment un paysage d'enfer là où on se trouve. C'est la décharge d'ordures de Bucarest.
Nous avons faim, on n'a pas d'eau, on n'a pas à manger. Nous attendons l'ambassade pour qu'elle nous ramène à manger.
Il y a des bonnes choses des fois dans ce qui reste des ambassades.
De la viande, des boulettes de viande.
Bonjour madame.
À Bucarest, les tziganes qui survivent dans les ordures préfèrent les restes des réceptions à l'ambassade de France, bien meilleurs que les plateaux repas des avions qui sont arrosés de détergent ou d'essence. Nora rigole, elle dit les rats en crèvent, mais pas les gitans. S'ils doivent survoler la Roumanie, les oiseaux se tournent sur le dos pour ne pas voir. À Paris, dans le RER, Vandana et sa petite copine font la manche. La location d'une béquille coûte 30 francs par jour, un faux plâtre 50 francs, un bébé 100 francs. C'est absolument immoral. La madame du RER n'est pas contente du tout. Elle voudrait quoi, la madame ? Demande Vandana. Que j'ai vraiment un bébé à 13 ans ? Que j'ai vraiment une jambe cassée ? La madame se replonge dans le Nouvel Obs, un dossier sur les 150 milliards détournés au Crédit Lyonnais.
Les Roms, eux aussi, avaient une écriture. C'était un oiseau qu'il avait inventé. Un oiseau migrateur qui n'avait pas migré cette année-là. Il avait une idée en tête. Quand la neige est venue, il s'est mis à danser sur la neige. Et la trace de ses pattes formait des signes, des mots, des phrases. C'était notre histoire, notre livre. Nos vieux s'en souviennent. Et les beaux jours sont venus. La neige a fondu, l'oiseau est parti, et les Roms se sont mis en route, espérant retrouver quelque part sur la terre l'oiseau du livre. Proverbe rom, ne rentre pas dans mon âme avec tes chaussures.
Ne rentre pas dans mon âme avec tes chaussures.
On est con, mais pas au point de voyager.
Tout ce qui est important arrive sur des pattes de colombe, disait Nietzsche. Guetteur d'inaperçu, en plus de s'attendre à l'inattendu, il ne faut pas écraser le renversant saugrenu, ni les fruits des fendus, ni les clameurs de l'inouï, ni la douce beauté de l'insu.
Tu es le désir, tu es le désir.
Les choses appartiennent à ceux qui les rendent meilleures. Geste au point du jour. Allumer une petite bougie sur une feuille qu'on dépose sur les fleuves et qui lentement s'éloigne tandis que le jour se lève. Qu'est-ce que nous appartient alors ? Le jour, la lumière, la feuille, la bougie, le fleuve ? Oui, tout ça, mais surtout les gestes.
Une dame qui fait ses rituels, elle prend une petite feuille, elle fait un geste, elle prend une petite fleur, elle fait un geste. Elle tient une petite coupelle dorée dans une main, pleine d'eau qu'elle vide sur les marches descendent vers le fleuve, elle fait des gestes avec son sari aux quatre points cardinaux, elle tourne sur elle-même, là, d'autres femmes sortent des feuilles, des poudres dans des boîtes,
Les hommes se savonnent de pied à la tête, d'autres plongent. Là, il y a un brahman, puisqu'il a un cordon, qui lave son cordon, qui frotte son cordon. Là, il y a un très très vieux monsieur, brahman aussi.
L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir, c'est un animal qui désire la croyance. Cornelius Castoriadis.
L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir.
L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir, c'est un animal qui désire la croyance.
Benares, mars 1995. Partout, l'homme discute avec sa destinée, avec les dieux qu'il s'est inventés. Nier les dieux, c'est nier les hommes. D'ailleurs, Montaigne pense comme moi. Les hommes ont fabriqué Dieu, dit-il, sans se rendre compte que la religion n'était qu'une pièce de leur invention propre à leur société. À Benares, j'achète un beau sari vert pour Khadija. Ça, c'est le bruit d'une mouche. C'est vraiment comme des mouches. C'est les mômes qui s'approchent de vous et qui vous demandent du fric interminablement. Celle-là, c'est une petite fille. Elle doit avoir 3 ans, 4 ans. Elle est en train de se gratter comme une folle. Elle a des petits bracelets roses. Comment tu t'appelles? What's your name?
Atma.
Atma. Où sont tes parents?
J'ai pas mon père.
Il est où?
Il est décédé. Il est mort.
Est-ce que tu as des amis?
Maman est mon amie.
Tiens. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de l'argent?
Je vais manger.
Tu vas manger quoi?
Du riz.
Et voilà, elle s'en va.
नहीं तो मेरे को हटाओ सही सलामत से ना तो कंचन को रखो यहां मेरी को हटाओ और मेरे को रखना है तो अल्लाह लखना एक जगह दो सही सलामत से
ठीक en ce moment elle fait le dialogue avec le dieu elle-même elle parle pas avec nous elle parle au dieu directement
et qu'est-ce qu'elle lui dit
protège-moi je demande pas grand chose
Allah wa al hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfi wa indahu illa bi iznihi ya'lamu ma ba
À la gare de Calcutta, un sac couché entre les rails. C'est une femme qui se laisse mourir de faim. Pour une dot impayée, son mari lui a broyé la main droite. Pas question de manger avec l'autre main, celle de l'impureté. Elle préfère se laisser mourir. Nous prenons le train de nuit pour Benares en passant par Chandernagore. Mon ami de Bachiche lit Jean Genet, traduit en bengali. J'adore le thé au lait brûlant dans des petites tasses qu'on vend dans les gares.
Le Gange dessine une courbe en forme du croissant de lune qui orne la chevelure de Shiva. À Bénarès, je me fais tirer le portrait par un photographe qui fait les photos des morts avant la crémation. Mais j'oublie d'aller chercher les photos. Sont-elles toujours à Bénarès ou le type les a-t-il brûlées? Entre l'exaltation mystique et le rejet panique, l'Occident maintient l'Inde entre parenthèses. 1 milliard d'Indiens.
Les deux malédictions du voyage sont l'enchantement et l'indignation, les deux aveuglements, les deux façons de passer à côté. Je n'ai jamais rencontré un voyageur assez sage pour se prémunir contre les deux. J'en conclus que voyager, c'est passer à côté.
El tango es fácil o imposible?
Ay, no sé lo que vamos a hacer, no sé.
Je ne sais pas ce qu'on va faire.
Y el pobre pobre y el rico rico.
Ici, il y a le pauvre très pauvre et le riche très riche.
Buenos Aires.
Les gens vont sortir voler, vont voler pour manger, vont casser les vitres pour manger.
C'est une révolution.
Ce sera la révolution.
Non,
je le dis parce que je meurs de faim.
Novembre 1995.
Et j'étais brutalement torturée et j'étais enceinte de moins de 3 mois.
Vous aviez ?
Et 16 ans. Et ils ont trouvé plus de 100 marques dans mon corps de la torture.
Rien à faire. Rien à faire à Buenos Aires, c'est dans l'air d'un matin, c'est sur une bouche pivoine, dans une poignée de main, sur le bord d'un tango, on retrouve cette tâche qui ne veut pas partir. Les desaparecidos, les disparus, victimes de la dictature de 1976 à 1983, et ils hantent toujours l'Argentine. Douleur fantôme, errant, ni mort ni vivant, visage d'enfant devant un arbre de Noël, sourire d'une jeune fille timide dans l'avenue Corrientes, famille en vacances avec un petit cheval. 30 000 fantômes harcèlent la mauvaise mémoire d'un peuple qui fut souvent réduit à collaborer avec ses bourreaux. Toute une génération contaminée. Quand un militaire accomplit son devoir de répression, le Christ est en lui, en bonté et en vérité, déclarait Monseigneur Bonamine, vicaire aux armées. 90% des évêques apportèrent leur soutien au terrorisme d'État. Aujourd'hui, le pouvoir tente de faire oublier sous les paillettes néolibérales. Mais les maires de la place de Mai à Buenos Aires tournent depuis plus de 20 ans. Les folles continuent. Veilleurs, où en est la nuit?
Tristesse.
Beaucoup de tristesse.
Mucha tristesse.
Beaucoup, beaucoup de tristesse.
Pero l'esperanza de volver.
Mais l'espoir de revenir.
Et...
Comment on dit revenir?
Volver.
Volver?
Volver à Italie.
Volver. Volver, c'est le plus grand tango, c'est le titre d'un tango.
Si.
Volver.
Volver con la fente mancida.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Muta!
Non ho visto mai niente. Però dicono al tempo, mia madre Bonanni, diceva che quando si guarda, si vede, si guarda e si butta in pancia. Non deve parlare mai.
Moi personnellement, je n'ai jamais rien vu. Mais ma mère, elle me disait qu'on regardait, le mettre dans le ventre. Et comme ça, j'ai toujours fait.
Jamais parlé,
jamais parlé.
Paura di essere vittime della mafia, perché Palermo è sempre stata una città vittima della mafia.
On est habitué à avoir peur, à être victime, parce que Palermo était toujours victime de la mafia.
Alors comment on va faire?
Dobbiamo combattere noi stessi.
Non, c'est nous qu'on doit combattre.
Et alors comment vous allez combattre les enfants?
Bambini. Avec l'intelligence.
Facendo delle manifestazioni.
En faisant des manifestations.
Ma non solo, dobbiamo essere convinti di distruggere la mafia che c'è qui, perché ci tiene tutti vittime di questa mafia.
Oui, on doit être en plus convaincu de détruire la mafia, parce qu'elle nous tient tous victimes. Perché tu vittima? Che cosa ti
perché
fa la mafia a te?
Perché non posso ribellarmi.
Parce que je peux pas me rebeller.
Ci ribelliamo, ci uccidono.
Parce que si on se rebelle, la mafia nous tue.
Là-bas, si j'y suis à Palerme, Sicile, janvier 1996.
Le langage est une cage.
Le langage est une cage.
Un homme de ventre, non moli pancia, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui tient les choses à l'intérieur de son ventre.
Non ho visto mai niente, però dicono al tempo mia madre Bonanni diceva che quando si guarda si vede, si guarda e si butta in pancia. Non deve parlare mai.
Moi personnellement, je n'ai jamais rien vu. Mais ma mère, elle me disait qu'il faut regarder, le mettre dans le ventre. Et comme ça, j'ai toujours fait. Jamais parlé, jamais parlé.
J'ai voulu me souvenir de Giuseppe Impastato di Peppino, que nous n'avions pas rencontré à Tsinisi, près de Palerme, en Sicile. Pour la raison qu'il a été assassiné par la mafia le 9 mai 1978. Et sur la maison où il habitait, dans cette rue principale de Sinisi, il y a une plaque qui dit que Giuseppe Impastato a été assassiné par la mafia ce jour-là, et que depuis, les siens et ses amis lutte contre la mafia et pour un monde meilleur. Je me souviens exactement de la mère de Giuseppe, de Peppino, Felicia, qui nous disait « Même après ma mort, ils n'oseront pas toucher à cette plaque. » Peppino a lutté contre la mafia seul ou presque encore à l'époque, avec une troupe de théâtre de rue et une radio libre qu'il avait créée. Ce gauchiste, comme on disait, dénonçait les agissements de la pieuvre dans sa petite ville, les collusions avec la démocratie chrétienne, opposant le droit de la force à la force du droit. Et ceci avec d'autant plus de compétence et de courage que son propre père était une éminence de l'organisation à l'échelon local. Le 8 mai 1978, on a retrouvé le corps déchiqueté de Peppino le long de la voie ferrée et l'enquête policière a établi qu'il s'agissait d'une erreur fatale dans la manipulation des explosifs alors que Peppino lui-même préparait un attentat contre un train. Peppino était le contraire d'un terroriste. Ses amis eurent toutes les peines du monde à faire rouvrir le dossier. Et finalement, la justice a reconnu que Peppino avait été assassiné. Et depuis, sa mère, son frère et ses amis dans la petite ville de Sinisi, les amis, c'est-à-dire le quincailler, le patron du petit resto, vénèrent sa mémoire et militent au risque de leur vie contre la domination mafieuse et pour une société meilleure. Et moi, j'aime beaucoup la lutte de ces gens-là. Je trouve que Peppino est un merveilleux symbole et je rêve d'un grand livre ou d'un grand film sur cette histoire et sur notre génération. Et quelqu'un, à un moment, dirait « Nous ne sommes pas condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Ce serait beau, très beau. »
Mais à cet endroit, en ce moment, l'humanité, c'est nous, que ça nous plaise ou non.
Mais combien vous avez fait de tours?
Pour fermer la porte complètement, il faut faire avant, 3, et puis 6.
Si on parle de la Sicile, tous pensent à la mafia, à l'azur du ciel et aux femmes avec le voile. Mais on n'est pas que ça. On est des gens qui travaillent et qu'on ne décourage pas. Et les femmes ne sont pas avec les moustaches et le voile noir. Sont des femmes amoureuses. Et leurs vêtements, ils ne sont pas fermés. La terre, elle est douce et amère. Et donc, on ne cultive pas la terre avec la loupare, le fusil mafieux.
Les jours de l'usée. Ici vivent les gens.
Mai 1996, là-bas, si j'y suis, à Grozny.
On est resté affamé et sans vêtements, tout a brûlé. S'il vous plaît, aidez-nous.
Est-ce que vous aimiez Staline?
Qui reste mort et qu'on mette Yeltsin à côté.
De guerre. On est en mai 1996 à Grozny. On en est à 60 000 morts, civils à 80%, russes pour la plupart. C'est le petit Vietnam de M. Yeltsin et ses amis les militaires contre les bandits tchétchènes. Bombes à forte pénétration, bombes au phosphore, bombes à fragmentation. La terre qui tremble, les tympans qui sautent, l'urine qu'on boit dans la cave, les chiens qui dévorent d'abord les fesses puis le ventre des cadavres. Pourquoi encore raconter tout ça? Les habitants qui faisaient sauter les chars pour récupérer les batteries, pour faire marcher la télé afin de regarder le feuilleton brésilien, une femme des tropiques. Pourquoi raconter? Des dizaines de journalistes, des télés de partout sont venus et ça n'a rien changé. L'Occident soutient Yeltsin, M. Chirac soutient Yeltsin, le FMI soutient Yeltsin. Des blindés et des boules hérissées de bidasses cagoulées de noir, des yeux rouges éclatés, un crucifix au cou. La chiasse au ventre, fou de vodka et de dope, les petits soldats se tirent dessus. N'importe qui peut tuer n'importe qui. La mort ne fait plus que façon. Les bombardements reprennent. Dans l'immeuble en face, il y a un sniper qui voit ce que je vois dans la lunette. Seul, au milieu de l'avenue, malgré les tirs, un vieil aveugle qui traverse la perspective Lénine. Que le tireur tire ou non, frère humain, on s'en fout. Je me souviens à Grozny de M. Andrei avec son chapeau. Sa femme était morte un mois avant. Son fils avait été tué la veille. Il lui montrait les fines herbes qu'il faisait pousser sur son balcon. Puis, il est descendu chez sa voisine de dessous, dans les décombres. Il ne dormait plus ni l'un ni l'autre. Il n'y avait plus personne dans l'immeuble en ruine. Et pour passer le temps, elle lui lisait Alexandre Dumas jusqu'à ce qu'il fasse noir. Il n'avait plus de lunettes. Et puis quand il faisait noir, il restait là, dans l'obscurité, tous deux, attendant. Quand nous sommes repartis, Zoé, Sacha et moi, l'oncle Vassia nous a promis de se couper la barbe quand la paix reviendrait, et de se trouver aussi une femme. Et puis, il a réfléchi. Il a dit, sans barbe, comment est-ce que vous ferez pour me reconnaître quand vous reviendrez pour mon mariage ? Nous quittons la Tchétchénie. Sur la route de l'aéroport de Nazran, un hélicoptère de combat rase le toit de la voiture. Mariam nous accompagne avec des chansons ingouches d'amour et d'adieu.
Lama no ma da, 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 lama no ma da
Merci à toutes et à tous, et n'oubliez pas, on est con, mais pas au point de voyager. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et je vous rappelle que sur le site là-bas.org, vous avez 2000 émissions, 2000 numéros de là-bas si j'y suis en réécoute gratuite, évidemment. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Alexandre Chenet. Lucie Hacoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch. Et Marion Dupin attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du festival Quand je pense à Fernande, du 12 au 16 juin à 7. La chanson française actuelle débarque au Théâtre de la Mer pour 5 soirées sous les étoiles face à la Méditerranée. Avec Stéphane Echer, Benjamin Biolay, Olivia Ruiz, Albin de la Simone, Lou Doyon, Axel Bauer, Arnaud, Barbara Carlotti, Psychiatre de la Rime et Kusai and the Smokes. Retrouvez le festival Quand je pense à Fernande dans le programme de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du numéro spécial des Inrecuptibles, guide des festivals de l'été. Musique, cinéma, expo, art vivant. Une sélection de plus de 250 festivals, région par région, en France, en Europe et dans le monde. Préparez votre été avec le guide des festivals des Inrocks, en partenariat avec France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet.
Redon Faïd est arrivé cet après-midi au palais de justice de Lille. Le malfaiteur doit être présenté à un juge. Il a été arrêté la nuit dernière dans un hôtel de Seine-et-Marne après 6 semaines de cavale. Les parents d'Aurélie Fouquet se disent aujourd'hui soulagés de son interpellation. Redon Faïd est notamment soupçonné d'avoir pris part à une fusillade en 2010 qui a coûté la vie à cette policière municipale. Une pièce montée avec 2 anges dessus. On saura tout ou presque du premier mariage homosexuel français. Il doit être célébré d'ici 1h30 dans la mairie de Montpellier. 500 personnes ont été invitées et plus de 200 journalistes venus du monde entier ont été accrédités. Après la mort hier soir en Martinique d'Irénise Moulonguet, la doyenne des Français à l'âge de 112 ans, la nouvelle doyenne française connue se trouve maintenant dans l'Allier. Il s'agit de Suzanne Burier. Elle est née en 1901 à Montluçon et elle a fêté ses 112 ans, elle, le 14 mars dernier. Une lettre d'Alfred Dreyfus a été adjugée aujourd'hui 380 000 euros par la maison d'enchères Sotheby's à Paris. Elle date du 26 janvier 1895. Elle est adressée au ministre de l'Intérieur de l'époque. Alfred Dreyfus l'avait écrite alors qu'il était détenu au bagne de Saint-Martin-de-Ré en attendant sa déportation en Guyane. Il y clame son innocence. Alfred Dreyfus fut victime d'une erreur judiciaire à l'origine d'une crise politique majeure au début de la Troisième République qui a divisé la France en 2 camps et demi. Direction maintenant Roland-Garros. Chez les hommes, Tsonga s'est qualifié en 3-7 pour le 3e tour cet après-midi, perd en 4-7 mais pour le 2nd tour. En revanche, c'est fini pour les 2 autres Français, Teixeira et Mahut. En ce moment, Simon est sur le court, ainsi que la Monf, Gaël, mon fils, face à Gulbis. Dur, Julien Langlais, on est au tie-break, non c'est ça?
Oui, c'est ça, en effet, le tie-break pour la Monf, Gaël, mon fils, dans ce match sur le court central, 3e match de la journée sur le court central de Roland-Garros, où on attend juste après la Française Caroline Garcia face à la numéro 1 mondiale Serena Williams, évidemment dans le tableau féminin, et Gaël Monfils pour son 2e match dans le tournoi après son exploit du 1er tour. Il avait éliminé Tomas Berdych, le Tchèque, tête de série numéro 5 après un match homérique en 5 manches. Eh bien, ça commence très fort dans ce match face au Letton Gulbis, 40e joueur mondial, quart de finaliste ici à Roland en 2008. Gaël Monfils, lui, a été 2 fois en quart de finale, 1 fois même en demi-finale, la même année d'ailleurs en 2008 ici à Roland-Garros. Eh bien, pour l'instant, les deux hommes sont à égalité dans la première manche, 6 jeux partout. C'est donc le tie-break, le fameux jeu décisif. Et pour l'instant, dans ce jeu décisif, les deux hommes sont à égalité. 2 jeux, 2 points partout. Sur les autres cours, rapidement, Liodra est mené 1-7-0, 1-7 partout, tiens, à l'instant, entre Mikael Liodra et le Canadien Raonic. Bento mène 1-7-0 pardon, face à l'Allemand Tobias Kamke. Gilles Simon, lui, est mené 1-7-0 par le modeste Uruguayen Cuevas. Quant à Edouard Roger-Vasselin, il est mené lui aussi 1-7-0 par l'Espagnol Nicolas Almagro.
Merci Julien Langlais. Tout est dit, vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Rendez-vous pour des enregistrements du Jeu des 1000 euros en public. Aujourd'hui, mercredi, dans les Alpes-Maritimes, à la Gaude, à la salle polyvalente à 18h30. Et demain, jeudi, toujours dans les Alpes-Maritimes, à Grasse, au Palais des Congrès, également à 18h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Ah non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je l'ai pas accablé.
Attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer. Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter,
la voix est libre.
Il est de retour en studio. Bonjour Frédéric Lodéon.
Ça va bien Laetitia Gaillet?
Ça va.
On vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Ce soir, un grand moment à la télévision et puis aussi au Théâtre des Champs-Élysées. C'est le centenaire du Sacre du Printemps de Stravinsky. La première a été terrible, des bagarres, des noms d'oiseaux, des colibets, des sarcasmes, des claques même. Enfin bon, ça a été une provocation gigantesque dans le monde de l'art. On dit que c'est surtout la chorégraphie qui a choqué. Et puis l'orchestre qui jouait sous la direction de l'impassible Pierre Monteux ne s'entendait plus du tout. Vraiment, on peut dire que c'était un grand succès puisque après le scandale, est venue la notoriété internationale du Sacre du Printemps. Donc je l'évoquerai tout à l'heure en fin d'émission. Mais avant le Sacre, il y a eu plein d'œuvres, évidemment, dans la Grande Russie. Par exemple, le prince Igor d'Alexandre Borodine. Borodine, chimiste, musicien quand il avait le temps, médecin, grand hôte qui accueillait tous ceux qui étaient en perdition, des soi-disant cousins qui se réclamaient de la famille. Alors que simplement, ils avaient faim, ils venaient se loger chez lui. Et en plus de tout ça, plein de chats, des chats qui s'installaient partout, jusque sur le piano. Bref, il nous a donné quand même des passages tout à fait extraordinaires. Et dans ce Prince Igor, on entend des danses qui nous prennent, comme le Sacre du Printemps d'ailleurs. C'est moins violent, évidemment. La conclusion des danses polovtiennes, c'était des ennemis des Russes, les polovtiens. Et ils ont voulu montrer leur art, leurs danseuses et leur force aussi à travers ces danses. Enfin, c'est ce que raconte évidemment le prince Igor d'Alexandre Borodine. On a entendu le chœur de l'opéra et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, tous dirigés par Yakov Kreisberg. Et avant Stravinsky, il y a eu aussi Moussorgski. Moussorgski, l'ivrogne génial, personnage incroyable, sauvage, insupportable et qui a laissé pas mal d'œuvres très intéressantes. Et puis un chef-d'œuvre, Boris Godounov, et c'est tellement russe, écoutez la scène du couronnement.